Culture Queer, un regard sur les arts et le divertissement.
Bon, c'est plutôt queer côté geek aujourd'hui avec Philippe Aubert côté. Philippe Aubert, on va parler de super-héros, des hommes avec des collants très serrés, c'est ça?
Oui, et des masques très sexy, là.
Alors justement, les super-héros, Spider-Man, Wolverine, Deadpool, Wonder Woman, Superman, Batman, Justice League, les Avengers.
Ouais.
Alors, on parle donc de nos super-héros d'enfance.
D'enfance, oui. On a grandi avec eux. Ouais, on les connaît. Moi, mon préféré, c'était Spider-Man en passant. Là, c'était mon crush d'adolescence.
Ah, moi, c'est mon crush encore à 63 ans.
Encore ça? Oh, vilain
garçon.
Dans
les films. Ben là, quand même.
J'assume aussi.
J'ai une émission queer. Je vais quand même pas me cacher d'être queer.
C'est vrai, je ne dois pas traiter de vilain garçon. C'est super vilain parce qu'on parle de super-héros.
Oui, ça, c'est ah, je préfère ça. Oui, d'être vilain, c'est pas méchant.
Super vilain. Et on s'assume un peu.
On s'assume.
On a grandi avec. En effet, tout le monde connaît les super-héros. Et c'est fou de voir comment ils ne laissent pas indifférents. Hein? On les adore ou certains les trouvent quétaines ou vont trouver que c'est l'incarnation de le self-man mad américain, tu sais, comme un certain président aime bien se réclamer d'ailleurs.
Ah oui.
Il y a tout ça et que c'est comme une.
On ne nomme pas trop souvent.
On ne nomme pas trop, tu sais. Mais il s'est déjà présenté en super-héros, hein.
Ouais.
Il y a certains pas les super-héros pour ça aussi. Donc, il ne laisse pas indifférent. Et ce que je trouvais fascinant avec eux pour les proposer dans une chronique aujourd'hui, c'est qu'ils ont. Ils ont un côté queer, les super-héros. Ils ont toujours eu un côté queer qui a causé scandale dans le passé, qui cause scandale encore aujourd'hui.
Ah?
Oui.
Alors, je vais reprendre des mots ici. On va enlever un moment aux super-héros leur masque, puis on va exposer justement ce côté queer. D'où viennent d'abord les super-héros?
Ça remonte à l'origine, si on veut, à la fin du 19e siècle. Les journaux ont commencé à faire de petites bandes dessinées, des comic strips, qu'on a commencé après ça à reproduire en livres. Là, dans les années 30, il y a un ex-officier de cavalerie rebelle qui avait été condamné pour insubordination. Il a été mis dehors de l'armée, il s'est reconverti comme éditeur, puis il s'est dit, ben, tiens, je vais faire des bandes dessinées à vendre direct aux enfants. Donc, c'est en 1934 que c'est arrivé, le premier comic book.
Mm-hmm.
Puis là, à l'époque, ben, on produisait surtout des aventures de Tarzan, Dick Tracy, des histoires policières. Il n'y avait pas de super-héros à l'époque. Puis là, vous avez un Canadien, Joe Shuster, qui était né à Toronto, il s'est associé à un scénariste américain, Jerry Siegel. Et là, ils ont eu l'idée d'un bonhomme qui aurait des super-pouvoirs, un certain Superman. 1934, personne ne voulait du truc, tout le monde trouvait ça niaiseux. Les éditeurs se sont refilés ça, et par 1938, l'éditeur DC Comics a trouvé ça, puis a dit, bon, il faut qu'on boucle un numéro, là, on va mettre ça, ça a l'air différent. Et là, ça a été la révolution.
Ah.
Les enfants ont adopté un homme qui volait, qui faisait des bons, qui était super puissant. Ça a été la folie furieuse. Donc, DC Comics a flairé l'affaire. En 1939, ils ont lancé un autre super-héros, Batman, qui n'avait pas de pouvoir, mais qui avait des gadgets et du cash, évidemment. Et en 1941, ben là, on est arrivé avec Wonder Woman, créé par un psychologue américain qui vivait en trouble. C'est ce qu'on a su après, là, avec deux femmes. Ben, il voulait proposer une héroïne pour les filles. Donc, il a proposé Wonder Woman. Cela dit, elle plaît aux garçons. Là, moi, je l'adore.
Ben, oui, ben écoute, c'est une icône. Une icône pour les communautés d'hommes gays, ça, c'est clair. Alors, exact. Ce sont de scandaleux super-héros.
Oui, parce qu'ils ont été très populaires sur le coup. Ils ont accompagné la jeunesse américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais à roulement de celle-ci, ça a été le chaos. C'était la chasse aux sorcières, la chasse aux communistes. Et là, on trouvait que la jeunesse américaine était dépravée, tout ça. On a cherché des coupables. Puis évidemment, on a dit que c'était la faute aux comics.
Ah.
Oui. Dans mon temps, il y a longtemps, là, quand j'étais jeune, là, c'était la faute aux animés japonais, aux Power Rangers. Ça allait rendre les jeunes violents, tout ça. On a commencé à accuser les super-héros de rendre la jeunesse américaine délinquante. C'était avant les années 50, on allait commencer à avoir du rock'n'roll, tout ça. Là, il fallait contenir la jeunesse. On a trouvé un coupable, les super-héros. Et il y a eu des croisades anti-super-héros. On s'est mis à brûler des comics, même à la fin des années 40. Et il y a un psychiatre, un certain Frédéric Vertam, qui a écrit un livre dans les années 50 qui s'appelait « La séduction des innocents
».
Et dans lequel il affirmait que les comics rendaient les jeunes délinquants. Que Batman et Robin, surtout, allaient inciter les jeunes à avoir des mœurs homosexuelles et que Wonder Woman, c'était une vilaine maîtresse dominatrice sadomasochiste, surtout à cause de son lasso pour attraper les méchants. Donc, il fallait bannir les comics, il fallait empêcher ça, la jeunesse d'être en contact de ça parce que ça allait les inciter à la drogue, à la violence et à tout.
Ah, mon Dieu.
Eh oui.
Donc, Mais il y a eu quand même un premier super-héros québécois.
Oui, ben, et gay, en plus.
Ah oui?
Et oui.
Ouais.
Parce qu'après la croisière de Vertam, là, on s'est mis à encadrer les contenus des comic books. Il ne fallait pas montrer d'homosexualité ni de drogue, évidemment. Et là, l'éditeur Marvel, ceux qui nous ont apporté Hulk, Spider-Man et compagnie, ben, ils ont, en 1979, ils ont imaginé une équipe de super-héros canadienne, la Division Alpha. Dans certaines bandes dessinées, on faisait même intervenir le premier ministre Pierre-Éliott Trudeau à l'époque, ce qui était assez amusant. Et il y a un des super-héros qui s'appelle Jean-Paul Beaubien, de son nom North Star. On a décidé à sa création qu'elle allait être gay. Mais c'était en 79 et on ne pouvait pas montrer d'homosexualité dans les comic books américains parce qu'il y avait les lois, les codes de conduite l'interdisaient. Même. Donc, il était obligé de donner des indices qui étaient juste perceptibles par la communauté queer pour révéler que North Star était gay.
Ah oui?
Oui. Donc, il y avait toujours des hommes qui sortaient de sa chambre. Avec les femmes, ça ne marchait pas trop, tu sais. Puis bon, là, évidemment, c'était l'époque qui était un peu névrosée. On pensait que toutes les personnes queer étaient un peu névrosées, tu sais, comme Spider-Man, tu sais. Donc, il y avait des petits indices. Et c'est juste en...
Spider-Man, il est vraiment gay, hein?
On aimerait.
Ouais, bon, on va revenir à ça.
On va y revenir.
Oui, oui.
Mais ce qui était intéressant avec la Marvel, c'est que la révolution qu'ils ont eue, c'est qu'ils ont ramené les super-héros dans la rue, au niveau du lecteur. Là, avec eux, Spider-Man, par exemple, oui, il a des super-pouvoirs, mais il est très hystérique, il est très nerveux. T'sais. Il est comme ses lecteurs. On a montré des super-héros humains avec des défauts. Quelque part, le lecteur est mieux. Donc, ça s'imposait de faire un super-héros qui était gay, comme une partie du lectorat, mais qui était dans le placard, malheureusement.
Bon, alors, code de conduite, puis finalement, on essaie de déjouer tout ça, mais il y a quand même des modèles queer dans ces super-héros.
Exact, parce que North Star a fini par faire son coming out officiel en 92. On a dit officiellement qu'il était homosexuel, et là, ça a ouvert la porte à d'autres super-héros qui étaient gays ou queer.
OK.
Donc, écoute, la liste est longue, là, je pourrais en nommer pendant
des
heures.
Allons-y, en nommant-en quelques-unes quand même, là.
Le fils de Superman, Jonathan Kent, on a décidé qu'il était bisexuel, et ça a fait un scandale auprès de la droite conservatrice américaine quand ça a sorti. Le personnage de Loki, qui est un super vilain, joué par Tom Hiddleston au cinéma, il est gender fluid, il peut changer de forme, mais aussi de sexe comme il veut. John Constantine, ça c'est chez DC Comics, un détective de l'occulte joué par Keanu Reeves à l'écran, dans la bande dessinée, il est bisexuel, c'est très explicite. Il fait des trucs avec le diable à un moment donné, hein, donc, Le Sphinx, l'adversaire de Batman, qu'on voyait souvent dans les vieux Batman en tutu, comme j'appelais ça là, dans ma jeunesse, là, lui aussi, il était gay jeune, il y a eu de l'intimidation, on a sorti ça après. Deadpool, ça c'est le super-héros pansexuel par excellence, c'est Ryan Reynolds qui le fait au cinéma. Je l'ai sur mon T-shirt en ce moment.
Ah, mon Dieu,
oui. T'sais, il est pansexuel, il est à tout, puis il drague Spider-Man comme ça se peut pas, là, en faisant des jokes salaces. Et tu me demandais si Spider-Man était gay. Le vrai Spider-Man officiel d'origine, non, mais il y a une de ses versions alternatives, parce qu'il y a des mondes parallèles hein, dans les trucs de super-héros. Oui. Bien, il y a le Web Weaver, qui est une version alternative gay de Spider-Man qui a été lancée en 2022.
Ah!
Alors, ça, c'est dans les plus emblématiques. Mais il y en a tellement d'autres, là, on pourrait aller loin.
Mais... il y a quand même une rareté de super-héros ouvertement queer. Comment on explique ça?
Mais au cinéma, il y en a très peu. La raison, c'est que à chaque fois qu'on montre dans les films un super-héros gay ou une scène homosexuelle, c'est sûr que les films vont se faire bloquer dans certains pays. La Chine, la Russie, le Qatar, tout ça, là, dès qu'il y avait des allusions à l'homosexualité de certains, coupé, perte de revenus. Et malheureusement, les fans de super-héros sont des fois très homophobes. Aussi. Quand on en met un à l'écran, il charle.
Ouais. Ben, concluons. Les super-héros, ça dérange toujours?
On les aime, mais ça dérange toujours. Oui, ce sont des gens avec des super-pouvoirs, tout ça, mais ils nous rappellent aussi des bonnes valeurs comme l'inclusion et tout ça. Et certains fans n'aiment pas se faire mettre leurs contradictions dans la face. Vous aimez les super-héros, mais vous n'aimez pas les personnes LGBT comme vos idoles, les super-héros, le feraient. Donc, ça crée des tensions. Puis c'est drôle parce que ça me rappelle une anecdote récente. Hein? Il y a un certain président américain qui se pense pour un super-héros. Il s'est fait rappeler alors par une certaine évêque, justement, que les gens avec des grands pouvoirs ont des grandes responsabilités envers les plus démunis, comme les super-héros. Il n'a pas aimé se faire rappeler ses lacunes en la matière. Hein? Moi, ça me laisse dire que cet évêque-là, en tout cas, c'est ma nouvelle Wonder Woman.
Ah, Philippe Aubert-Côté, quelle belle finale, quelle belle chute pour cette chronique. Merci beaucoup.